On a beaucoup parlé d'économie avec notre invité, mais aussi de politique, naturellement. Vous revenez avec une économiste ce matin, Natacha Triou, pour l'Aider Culture.
Oui, puisqu'il s'agit de Claudia Sénic. Elle enseigne à la Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris. Et elle est la spécialiste de l'économie du bonheur et du bien-être. Récemment, elle a publié aux presses de l'ENS « Les Français, le bonheur et l'argent ». Elle y analyse une particularité française, le pessimisme. C'est avec Jouan qu'elle s'est prêtée au jeu et à l'exercice de l'Idée Culture. Et plus qu'une œuvre qui l'a marquée, Claudia Sénic nous parle d'une œuvre qui a changé sa vie.
Ce livre, c'est l'autobiographie de mon père, de Pierre Pachet, qu'il a écrit en 1987 et qui a été réédité en 1994 chez Autrement. Et que moi j'ai lu à la fin des années 90, au début 2000. Donc c'est une pseudo-autobiographie écrite par Pierre Pachet, qui fait parler le narrateur, son père, donc comme si c'était lui qui écrivait son autobiographie. Le livre décrit donc la vie de Simcha Apachevski, qui est née, je crois, aux environs de 1895, à Tiraspol, près de Kishinev, près d'Odessa, en Bessarabie, qui est une province de la Moldavie actuelle, qui était à l'époque en territoire russe, en Russie. Et le personnage, le narrateur, quitte sa ville dès l'âge de 18 ans, en 1914, pour la France, et il passera toute sa vie en France, en fait, entre Nancy, Angoulême, Vichy, Paris, Bordeaux, etc. J'avais souvent pensé à ce livre, et finalement, le souvenir que j'en ai était construit, recouvert par le nombre de fois où je m'étais dit « j'ai vraiment changé de carrière après avoir lu ce livre ». Le livre évoquait pour moi un peu l'histoire de mes grands-parents qui avaient également quitté, dans les années 30, donc plus tard, la Pologne. Mais surtout, ce livre m'avait marqué parce que, en le lisant, tout à coup, je m'étais dit que c'était fini. J'en avais fini avec l'attraction de la Russie, les pays de l'Est, avec cette espèce d'obligation d'aller là-bas renouer quelque chose qu'on aurait laissé et qui m'appartenait. Et on était partis et c'était tant mieux. Il faut que je raconte un peu quand même ce que c'est que ce livre. Donc c'est une voix qui parle, la voix du narrateur. Donc c'est une voix très, une intelligence très froide et en même temps une sensibilité assez douloureuse qui analyse tout le temps le monde et soi-même dans le but d'en tirer une compréhension nécessaire à la survie. Un récit où il n'y a jamais de place pour l'espoir vraiment ou la joie, sans parler du bonheur. La déception est toujours jamais très loin, le monde est menaçant. Alors, il commence par dire « Il n'était pas dans mon caractère de me réjouir trop tôt. J'attendais les catastrophes futures, les yeux grands ouverts. Mon pessimisme constamment affirmé me rendait antipathique. Mon caractère taciturne et méditatif plaisait à ceux qui ne rebutaient pas. J'apparais comme une sorte de tyran domestique, immodérément pessimiste. Moquerie, crainte, pitié sont les sentiments que j'inspire principalement. » Et simplement, le récit devient plus contemplatif et plus philosophique à la fin du livre. Deux derniers chapitres, quand le narrateur commence à souffrir d'une dégradation neurologique qui affecte notamment sa vision. Et là, il commence à reconsidérer le monde du point de vue de la perte de ses facultés, de sa mémoire, et à se demander qu'est-ce que la conscience et l'individualité quand la mémoire se délite et dans une espèce de décomposition anticipée à l'approche de la mort. Donc, ça, c'est le mythe, le récit que j'avais en tête. Donc, j'ai racheté le livre et je l'ai relu dans la perspective de cette émission. Et je n'ai absolument pas retrouvé ce que je croyais avoir lu, mais absolument pas. Donc, je l'ai lu une fois, deux fois, trois fois. Jamais les lignes que je visualisais, je ne les ai pas retrouvées. D'abord, en fait, dans le livre, le passage qui concerne la Russie, enfin la Bessarabie, c'est vraiment très court, c'est 10 pages. Mais en dehors de ça, ce que je cherchais, je ne l'ai pas trouvé. Parce qu'en fait, dans ce roman, il y a quelque chose qui m'a parlé, mais c'est pas ce qui est écrit noir sur blanc. C'est peut-être ça, la littérature, en fait. Voilà, donc ça, c'est le livre qui m'a marqué, que j'ai lu au début des années 2000 et que je ne pourrai jamais relire de la même manière.
Voilà l'Idée Culture de l'économiste Claudia Sénic qui enseigne à l'École d'économie de Paris. Et comme elle enseigne à l'École d'économie de Paris, Dick Howard, je ne résiste pas à l'envie de vous lire un extrait de la dernière chronique de l'économiste Daniel Cohen, qui dirige le département d'économie de l'École normale supérieure. Une chronique intitulée « Game of Trump. Alors je sais que vous ne regardez pas la télévision, Nick Howard, mais écoutez quand même ce que dit Daniel Cohen. On a dit que 24 heures chrono, une série produite par la chaîne HBO, avait rendu possible l'élection d'Obama en mettant en scène un président afro-américain séduisant, nouveau Kennedy assassiné lui aussi dans la série. Game of Thrones n'est certes pas responsable de l'élection de Trump, mais elle offre un formidable lexique de l'Amérique. Selon celui-ci, deux points, une politique du chaos pour affirmer son pouvoir, une forme de refus obstiné d'assumer une responsabilité collective dans le bien-être du monde, à l'exception de celui de ses électeurs, l'obsession de construire un mur pour se protéger des autres, à l'image de celui qui est censé protéger le royaume de Westeros de la menace des morts-vivants et des malheureux humains, les sauvageons, pris en étau entre deux mondes comme les migrants aujourd'hui. Eh bien, je vous incite à regarder donc Game of Thrones. Alors maintenant, attention, vous en avez manqué un certain nombre d'épisodes, mais phénomène planétaire, il ne faut pas manquer ça. Ou alors, vous pourrez aller voir le dernier film de Frederick Wiseman, Monrovia, Indiana, qui essaye, comme vous le faites, un peu de comprendre le vote Trump dans cette petite ville agricole du Midwest américain de 1400 habitants, dont 76% ont voté Trump aux dernières élections présidentielles. Voilà de quoi faire pour ce week-end, Nico Ward.
Attention, quand même, je ne prétends pas comprendre l'élection de Trump, je n'essaie pas de le comprendre. C'était pas pour ça que j'ai écrit mon livre. Je veux comprendre cette Amérique qui ne se réduit pas à cet homme dont la vulgarité est une pseudo-preuve d'authenticité. Je crois que l'Amérique a d'autres choses à offrir et aura un autre destin que celui que lui, Trump, va essayer de nous imposer.
Des lumières pour faire face aux ombres. Il est 8h52.